Lizzie présente. Sans défense. Darlan Coben. Lu par Jean-Christophe Lebert. À Mike et Georges, et aux amitiés à la vie à la mort. Chapitre 1. Le garçon disparu depuis 10 ans s'avance dans la lumière. Je ne suis pas du genre hystérique ni même enclin au sentiment qu'on nomme communément la stupéfaction. Durant mes 40 et quelques années d'existence, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai failli être tué, et j'ai tué. J'ai été confronté à une perversité que beaucoup trouveraient difficile à imaginer, voire inconcevable. D'aucuns argueraient que j'en ai fait autant. J'ai appris au fil des ans à contrôler mes émotions, et qui plus est mes réactions dans des situations stressantes ou explosives. Je peux frapper vite et violemment. Mais je n'agis jamais sur un coup de tête ni de manière irréfléchie. Disons que ces qualités m'ont sauvé, moi et ceux qui me sont chers à plus d'une occasion. J'avoue cependant que, en voyant ce garçon, du reste est un adolescent maintenant, je sens mon pouls s'accélérer. Mes oreilles se mettent à bourdonner. Inconsciemment, je serre les poings. 10 ans. Et une 50aine de mètres, me sépare du garçon porté disparu. Patrick Moore, c'est son nom, s'adosse au mur barbouillé de graffiti du passage souterrain, la tête dans les épaules. Il regarde furtivement autour de lui avant de fixer le trottoir fissuré. Ses cheveux sont taillés à ras, ce qu'on appelait autrefois une coupe en brosse. 2 autres ados traînent dans le passage. L'un tire sur une cigarette si furieusement qu'on dirait qu'il lui en veut. L'autre arbore un collier de chien clouté et un polo en maille qui ne laisse aucun doute quant à son activité professionnelle. Au-dessus, les voitures filent sans se soucier de ce qui se passe sous terre. Nous sommes à King's Cross, qui a subi un sérieux rajeunissement ces 20 dernières années. On y trouve des musées, des bibliothèques, l'Eurostar et même la pancarte du quai 9¾ d'où Harry Potter était monté dans le train pour Poudlard. La plupart de ceux qu'on qualifie d'éléments indésirables ont troqué ce dangereux commerce de rue contre la relative sécurité des transactions en ligne. On ne prend plus le risque de tapiner entre les voitures, autre avantage collatéral d'Internet. Mais il suffit de franchir les rails, au propre comme au figuré, pour trouver derrière ces buildings rutilants des îlots où la racaille survit sous forme concentrée. C'est là que j'ai retrouvé notre disparu. Une impulsion, le genre d'impulsion que je réfrène, me pousse à franchir la chaussée en courant pour lui sauter dessus. Si c'est réellement Patrick et non un sosie ou une erreur de ma part, il devrait avoir 16 ans maintenant. À distance, l'âge m'a l'air de correspondre. Il y a 10 ans, faites donc le calcul. Dans la ville ultra-résidentielle d'Alpine, Patrick avait été invité à ce qu'on persiste à appeler un goûter chez le fils de ma cousine, Rhys. D'où, naturellement, mon dilemme. Si je saute sur Patrick, là, tout de suite, qu'adviendra-t-il de Rhys? D'accord, j'ai l'un des disparus dans ma ligne de mire, mais je suis venu les chercher tous les deux. Ce qui m'incite à la prudence, pas de précipitation. Quoi qu'il ait pu se passer il y a 10 ans, quelle qu'ait été la façon cruellement humaine, je ne crois pas à la cruauté du sort, puisque le coupable est toujours un être humain, dont ce garçon a été arraché à l'opulence de sa demeure en pierre de taille pour atterrir dans ce cloaque souterrain, je crains qu'un geste inconsidéré de ma part ne le fasse disparaître à nouveau et cette fois définitivement. Je dois attendre Rhys, et lorsqu'il sera là, je les récupérerai tous les deux pour les ramener chez eux. 2 questions vous ont probablement traversé l'esprit. Primo, comment puis-je être aussi sûr de pouvoir mettre la main sur les 2 garçons? Imaginons qu'ils aient subi un lavage de cerveau et qu'ils se rebiffent. Imaginons que leurs ravisseurs, ou quiconque détenant les clés de leur liberté, soient nombreux, violents et déterminés. Ma réponse sera « Ne vous inquiétez pas pour ça. » Secondo, et c'est la question qui me taraude le plus, que faire si Rhys ne se manifeste pas ? Comme je ne suis pas trop du style « on verra le moment venu », j'échafaude un plan B qui consiste à délimiter la zone et à prendre discrètement Patrick en filature. Mais pendant que j'y réfléchis, la situation se gâte brutalement. Les affaires vont bon train, notre monde est divisé en catégories et cette hurie noire en plein air n'échappe pas à la règle. L'un des passages est réservé aux hommes en quête de compagnie féminine. C'est le plus fréquenté. Les vieilles valeurs ont la vie dure. On a beau parler genre, préférence et déviance, le plus gros des troupes se compose d'hétéros sexuellement frustrés. Les filles au regard éteint se postent le long des murets en béton, les voitures défilent, des filles y montent, d'autres filles les remplacent. C'est comme observer un distributeur de boissons dans une station-service. Dans le second passage, il y a un petit contingent de transsexuels et de travestis diversement décatis. Et tout au fond, là où se trouve Patrick, officient les jeunes prostituées homo. Sous mes yeux, un homme en chemise couleur melon s'approche de lui en bombant le torse. Je me suis déjà demandé ce que je ferais si un client sollicitait les services de Patrick. De prime abord, il faudrait intervenir sur le champ. Ce serait la réaction instinctive, sauf que mon objectif est de ramener les deux garçons à la maison. Le fait est que Patrick et Rhys ont disparu il y a 10 ans. Ils ont enduré Dieu sait quoi. Et même si l'idée de les laisser subir ne serait-ce qu'un mauvais traitement de plus ne me sourit guère, j'ai déjà pesé le pour et le contre et pris ma décision. Inutile de revenir là-dessus. Mais Chemise Melon n'est pas un client. Je m'en rends compte très vite. Les clients ne se pavanent pas la tête haute et un rictus aux lèvres. Ils ne portent pas de couleurs vives. Les clients qui en sont réduits à venir ici pour satisfaire leurs besoins sont rongés par la honte ou la peur d'être découverts, et très vraisemblablement les deux. Or, Chemise Melon a l'allure, la démarche et le peps d'un type sûr de lui, et dangereux. Ces choses-là, ça se sent. Votre cerveau reptilien émet un signal primaire que la logique ne saurait expliquer. L'homme moderne, plus soucieux des apparences que de sa propre sécurité, a souvent tendance à l'ignorer, à son détriment. Chemise Melon jette un œil en arrière. Deux autres hommes s'approchent, deux malabars en pantalon de treillis, leurs torses luisants moulés dans ce qu'on appelait autrefois des marcelles. Les autres garçons qui traînaient dans le passage, le fumeur et celui au collier de chien, détalent aussitôt, laissant Patrick seul avec les nouveaux venus. « Ça ne me dit rien qui vaille. » Patrick baisse la tête. Son crâne rasé de près brille dans la lumière. Il n'a pas vu les trois hommes arriver. Je fais quelques pas dans sa direction. Ça fait un moment qu'il est dans la rue. J'imagine ce qu'a été sa vie. Le contraste entre le cocon d'une enfance choyée et ceci. Mais depuis tout ce temps, il a dû apprendre 2 ou 3 choses. Il est peut-être tout à fait capable de gérer la situation tout seul. Laquelle situation est peut-être moins critique qu'il n'y paraît. J'attends de voir. Chemise Melon rapproche son visage du sien. Il lui dit quelque chose. Puis, sans crier gare, il projette son poing façon massue sur le plexus solaire de Patrick. Le garçon s'écroule, pantelant, cherchant à reprendre son souffle.